Alors voici cette histoire. Le petit frère Yotam s'est caché et grâce à lui, on a une histoire, une parabole. On a l'habitude d'entendre des paraboles dans le Nouveau Testament avec Jésus, mais là, on en a une dans l'Ancien Testament, il y en a quelques-unes. Une parabole, eh bien, c'est une petite histoire qui permet d'affronter un sujet sensible, sans confrontation directe et sans jugement direct non plus. C'est une manière de faire réfléchir en faisant un détour par d'autres images. Et dans une parabole, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui se décale. Il y a notre logique qui est troublée. Et c'est là où on peut commencer à réfléchir. Alors regardons un peu les personnages que Yotam met en scène. Ce sont des arbres qui se cherchent un roi. Évidemment, ils vont voir qui sont les plus capables. Le trio de tête est formé par l'olivier, le figuier et la vigne. Trois arbres présents sur la terre d'Israël-Palestine et abondamment cités dans les textes de l'Ancien Testament. Ils sont présents, alors l'olivier, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tout début de la Genèse, où est-ce qu'on entend parler d'olivier ? Au moment de l'Arche de Noé, quand la colombe rapporte un rameau d'olivier dans son bec. Ensuite, les feuilles de figuier, à qui servent-elles au tout début de la Genèse ? Ben, à Adam et Ève, pour couvrir leur nudité. Et puis, on a la vigne, aussi dans l'Arche de Noé, dans la fin de l'histoire de Noé. La première chose que Noé fait sur sa terre, c'est de planter une vigne. Alors, il va vite en voir les effets, mais c'est en tout cas... Et en fait, la vigne, c'était un arbre qui était bien plus haut qu'aujourd'hui. On ne la taillait pas à ras du sol, mais c'était un arbre qui pouvait être très, très haut. Alors, les arbres vont d'abord voir l'olivier. L'olivier, il produit des olives, et avec les olives, on produit de l'huile. Donc, en même temps de la nourriture, en même temps de l'huile, en même temps des remèdes, du parfum, et puis l'huile, elle sert aussi à choisir les rois. Quand on dit que Samuel va oindre Saül puis David, eh ben, on y met de l'huile sur la tête. Ça désigne les rois. Le figuier, il produit la figue. Vous avez peut-être vu notre figuier, il a produit deux figues cette année. Il y en a une qu'on a partagée au conseil presbytéral, et puis l'autre, elle était tombée par terre, donc Jean-Christophe l'a ramassée hier et on l'a mangée hier soir. C'est un fruit délicieux. On est en plein dans la saison. Et puis, il y a des grandes feuilles où on peut s'abriter dans les pays chauds. Et il y a une image qui est symbolique. Être assis sous le figuier, ça veut dire être dans la méditation. Méditation des textes bibliques, par exemple. Par exemple, Jésus, quand il appelle le disciple Nathanaël, il lui dit « Je t'ai vu sous le figuier ». Et puis, la vigne, eh bien, c'est une image souvent pour identifier le peuple d'Israël, le peuple dont Dieu s'occupe. Il prend soin de sa vigne et Jésus parlera de la parabole des vignerons meurtriers qui ne se sont pas bien occupés de la vigne. L'olivier, le figuier et la vigne, ce sont trois arbres qui représentent le confort au foyer et la prospérité. Évidemment, les habitants en tirent leur subsistance pour vivre. Mais les arbres vont vers ceux qui symbolisent la paix. Évidemment, quand on choisit un roi, on veut la paix. Chacun habitait en sécurité sous sa vigne et son figuier. Ce sont des extraits des prophètes. C'est une expression qu'on retrouve énormément. Et là, premier étonnement, les trois refusent le job. C'est une ironie, évidemment, face au pouvoir du roi. Vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres ? Quelle ironie ! Le mot hébreu parle de trembler et même d'errer. Donc non seulement cette fonction n'est pas ce que les arbres veulent, mais en plus, cette fonction est méprisée. Alors c'est vrai qu'on peut se dire aussi que pour nous-mêmes aujourd'hui, le rôle d'être chef n'est pas de tout repos. Même pour vous, les jeunes au collège, on vous demande, par exemple, d'être délégué des élèves. Il y en a parmi vous qui sont délégués ? Marie, yes, bravo. Mais c'est pas évident parce que des fois, il y a des décisions à prendre qui plaisent pas à tout le monde. Quand on est délégué des élèves, je me souviens, on est parfois un peu entre, on fait un peu tampon entre les élèves qui sont pas contents, les profs qui sont pas contents, voilà. On s'expose hein, quand on est à cette place du chef. Donc, ces trois grands arbres disent non. Et ça m'a fait penser au théologien Jean Calvin. Vous savez, Jean Calvin, il a eu une vie un petit peu mouvementée avec la ville de Genève. Parce qu'il a essayé, dans un premier temps, de convertir un peu cette ville, de lui donner un peu des règles. Et puis, on l'a mis dehors, ou il est parti, je ne sais plus. Et donc, il était très content parce qu'il voulait s'occuper de la théologie dans les livres à Strasbourg, tranquillement. Et puis, on a été le rechercher. Et il a dit oui. Et des fois, il faut du courage pour dire oui, quand on est honnête avec ce service. Alors évidemment, ce refus des trois arbres, symbolisant la paix et la prospérité, me ramène à l'actualité. En ces temps troublés d'aujourd'hui, je me suis dit, mais la paix ne pourra donc jamais advenir dans ce petit pays de Palestine et Israël. Cela fait des millénaires que cela dure. 2500 ans et plus. Alors évidemment, on en a parlé avec des collègues cette semaine, on avait une pastorale, c'est une réunion des pasteurs, et on s'est dit, le seul mot Israël peut déclencher des passions. Donc même nous, en chair, il y a des pasteurs qui se posent la question, comment utiliser ce mot? Parce que le Israël d'autrefois n'est pas le même que le Israël d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est bien plus facile de se positionner en pour ou en contre que d'essayer de voir la complexité de l'histoire de ce conflit. En 2012, quand j'étais encore pasteur à Beauvais, nous sommes allés dans ces terres, dans ce petit pays, pendant une semaine avec un groupe interreligieux. Et nous avons pris conscience de la complexité de ces identités multiples. Nous avons rencontré un prêtre, donc prêtre catholique, chrétien, arabe et de nationalité israélienne. Il s'appelle Émile Choufani. C'est un homme qui a passé sa vie à travailler à la paix, mais on n'en parle pas parce qu'en règle générale, on a compris qu'il ne faut pas parler des initiatives de paix qui sont nombreuses. Nous avons découvert que les médias ne doivent pas mettre en avant ce travail souterrain de paix. Alors aujourd'hui, la violence se déchaîne des deux côtés. Aucune violence n'est justifiable, aucune. Ce prêtre qui tenait une école, qui travaillait à la paix dans son école, disait « Nous nous tenons toujours auprès des victimes en essayant de ne pas prendre parti. » Parce qu'il y a un cercle vicieux qui veut justifier la violence par une violence subie. J'ai souffert de ce que tu m'as fait, alors je suis violent. Et je réponds par la violence, et cela n'a pas de fin. C'est un cercle vicieux, et ces cercles vicieux, on le voit pas forcément là-bas, on peut le voir dans des familles, on peut le voir dans des relations personnelles, on peut le voir aussi dans des pays. Et cela entraîne à la haine de l'autre. Cette haine désire la disparition de l'autre, la disparition de son existence. Et c'est ce qui arrive. Dans cette terre que Dieu aime, des peuples qui désirent l'éradication de l'autre. Aucune solution simple n'existe. Nous sommes à l'épreuve d'une parole qui ne peut plus se dire ni s'entendre. Ce pays est un défi pour les humains de vivre ensemble. Le jour où il y aura la paix là-bas, eh bien, moi je me suis dit un jour peut-être qu'il y aura la paix dans le monde entier parce que c'est tellement énorme le défi qu'il y a. En tout cas, les humains auront fait un chemin immense. Reprenons la parabole. Le refus des grands arbres va mettre en évidence l'absurdité de mettre au pouvoir quelqu'un comme Abimélec. Il le compare au buisson d'épines. Alors évidemment, c'est l'opposé de ce qu'on aurait envie de choisir, parce que si on s'approche de lui, on se pique. On ne peut pas s'y abriter parce qu'il est tout petit, donc il faut s'accroupir. Et en plus, il ne produit rien de bon. Yotam dit aux propriétaires qui l'ont élu, « Voilà à quoi ressemble celui que vous mettez au pouvoir, je vous aurais averti. » Alors évidemment, à tous les échelons, ceux qui votent ont des intérêts. Et si le vote peut les favoriser, évidemment, c'est tout à leur avantage. Les propriétaires de Sichem étaient du même clan qu'Abimélec. Abimélec a supprimé tous ses frères pour avoir la place de prendre des décisions qui le servent, lui, au lieu d'être au service des autres. Alors il s'évite de devoir composer avec d'autres parce que ça nécessite de dialoguer. Pour avancer dans des compromis, il préfère tuer que de faire de la place à l'autre. Utiliser la force, c'est ce que l'enfant fait dès son plus jeune âge. On a maintenant que j'ai des petits-enfants, mais j'avais des enfants aussi, ben vous savez, quand on est au bac à sable, c'est nous qui construisons le pâté de sable, et puis lui, pouf, d'un coup, il détruit. C'est son pouvoir, c'est le premier pouvoir qu'il a. C'est tellement difficile de construire un pâté de sable tout seul. Donc c'est beaucoup plus facile de le détruire. Et ça, c'est ce que l'être humain découvre tout petit. Et c'est l'éducation qui nous apprend. Pour devenir humain, eh bien, il faut parler et il faut comprendre que l'autre a le droit d'exister comme moi. Et que même si nous avons des positions différentes, ça ne me met pas en danger, moi. Je peux garder ma position. Mais je peux dire à l'autre, voilà, moi ce que je pense, c'est ça. Tu n'es pas obligé de me taper dessus parce que je pense différemment de toi. Oui, cette parabole nous dit encore beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on voit certains chefs d'État élus se comporter comme des dictateurs, évidemment, on s'interroge sur les personnes qui les ont élus, qui l'ont élu. Mais je pense aussi à des exemples de notre quotidien. J'ai parlé tout à l'heure d'être délégué au conseil, au conseil de classe. Mais il y a les parents d'élèves aussi. Est-ce que vous avez des parents qui sont parents d'élèves ? Non, ils ne sont pas parents d'élèves, ils ont trop à faire. Et puis, il y a aussi des engagements quand on est président dans une association ou dans le bureau d'une association. Le conseil presbytéral, bien sûr, on est en train de recruter, de réfléchir. Le conseil municipal, c'est aussi une vraie responsabilité de diriger n'importe quel club. Et puis, c'est tout aussi important dans une entreprise ou, évidemment, en politique. Et on sait que plus on a de pouvoir, plus il y a de pouvoir en jeu, plus la responsabilité du service se perd. Parce que ces deux mots-là, les mots-clés, responsabilité, service. Évidemment, les intérêts de chacun sont mis en avant et le pouvoir est toujours très délicat à tenir. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ceux que l'on élit. En tout cas, cette parabole nous permet de prendre du recul sur le pouvoir humain qui sera toujours imparfait. Un peu plus loin, dans le livre de Samuel, on a le prophète Samuel qui explique au peuple que jamais un roi ne pourra combler toutes les attentes, tous les désirs. Il y aura toujours des injustices, des erreurs, une spoliation de biens ou bien des personnes spoliées. Donc il faut prendre du recul. Alors vers qui se tourner ? Eh bien, vers celui qui nous parle d'un royaume ou d'un règne, c'est le même mot en grec, qui est déjà là et qui est encore à venir, qui n'est pas encore accompli. Dieu est allé au bout de son amour en envoyant Jésus-Christ se relier à nos souffrances pour nous ouvrir à une espérance qui dépasse la mort et la souffrance. Le règne de Dieu est parmi vous, le royaume est déjà parmi vous. Ben oui, Jésus annonce que ce règne s'est approché, mais comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien, il faut apprendre à le reconnaître. On le reconnaît à chaque fois qu'on laisse Jésus habiter en nous, à chaque fois qu'on le laisse régner sur nous, qu'on le laisse vivre en nous, nous inspirer aussi, qu'on lui laisse de la place. Le royaume est présent en nous, en nous-mêmes, mais aussi parmi nous. Le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, dit l'apôtre Paul. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc on peut aussi le voir à l'envers. Quand on vit un moment particulier de joie ou de paix, on peut se dire que tiens, peut-être que Dieu est présent, même si on ne l'a pas du tout invoqué. Ça, c'est important aussi que ça marche dans les deux sens. Mais ce règne, il ne va pas venir tout seul. Il ne va pas... Jésus est venu nous l'amener, il nous a dit il se rapproche, mais il va se rapprocher grâce à nous. Donc Dieu a besoin de nous, de chacun d'entre nous. La paix est un travail, nous avons entendu tout à l'heure. Alors oui, il faut se mettre en travail en commençant par nous. Il ne faut pas se nier, mais il faut faire notre part. Nous pouvons commencer par nous-mêmes. Nous pouvons assumer nos responsabilités en nous mettant en service de Dieu et des autres, et pas forcément dans l'Église, ça peut être évidemment ailleurs, tous les lieux où nous sommes des êtres humains. Nous pouvons être témoins de ce royaume de paix, de joie et d'amour. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours à nos côtés. Amen.